Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite!
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri des Érables et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Cet hiver, je suis allée voir une pièce au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Elle s'appelait « Et le cœur fume encore ». En tout, il y avait 7 acteurs sur le plateau. 7 acteurs pour penser nos identités françaises et les oublis de la mémoire coloniale. À travers l'expérience algérienne, le spectacle interrogeait la pluralité des regards posés sur l'histoire et les liens féconds entre politique et littérature. En creux étaient posées des questions importantes. Comment écrire en pays dominé? Ou comment conquérir la langue du colon et faire du français un lieu de revendication identitaire? Ces enjeux habitent l'œuvre d'un écrivain algérien majeur, et c'est le choix de la sociologue de la littérature et écrivaine, Kaoutar Archi. Elle travaille particulièrement sur les liens entre la langue et la nation. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
J'ai eu beaucoup de mal à me décider quant au choix de l'ouvrage dont je souhaitais vous parler. Puis finalement, comme nous sommes le 8 mai 2020, en tout cas j'enregistre cet entretien le 8 mai 2020, je me suis dit qu'il serait intéressant de nous situer à l'intersection de l'histoire, de la littérature, mais aussi du mémoriel, en remontant le temps jusqu'à cet autre 8 mai, le 8 mai 1945. Cette date est importante, elle correspond à l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. C'est une date qui possède, on pourrait dire, un envers, puisqu'elle correspond aussi à la survenue des massacres en Algérie, de Sétif, de Guelma et de Kerata, où près de 40 000 civils algériens ont été tués. Cet événement a été fondamental dans la trajectoire d'un homme, en particulier Kateb Yassine, dans les modalités de sa venue et l'écriture, et fondamental aussi dans l'œuvre qui en a été produite, à savoir ici, Nejma. Nejma est donc un roman qui a été publié en 1956, en pleine guerre d'Algérie, aux éditions du Seuil, à Paris. Nejma raconte donc l'histoire de 4 personnages masculins, Mustapha, Lagdar, Mourad et Rachid. Et on pourrait même en percevoir un cinquième du nom de Kamel. Ces hommes sont tous liés d'une manière singulière, puisque tous vouent une passion amoureuse pour une femme mystérieuse du nom de Nejma. Nejma est décrite en ces termes. Étoffe et chair fraîchement lavée, Nejma est nue dans sa robe. Elle secoue son écrasante chevelure fauve, ouvre et referme la fenêtre. On dirait qu'elle cherche inlassablement à chasser l'atmosphère, ou tout au moins à la faire circuler par ses mouvements. Sur l'espace frais et transparent de la vitre, les mouches blotties se laissent assommer ou feignent la mort à chaque déplacement d'air. Nejma s'en prend ensuite à un moustique, avec un mouchoir dont elle s'évente en même temps. Épuisée, elle s'assoit à même le carrelage. Son regard plonge dans l'ombre. Elle entend remuer la broussaille. Ce n'est pas le vent. Les seins se dressent. Elle s'étend. Invivable consomption du zénith. Elle se tourne, se retourne, les jambes pliées le long du mur, et donne la folle impression de dormir sur ses seins. Page après page, chacun de ces hommes raconte sa relation à Nejma, raconte la manière dont il espère la posséder. Et il est important de noter que l'objet de cette quête, Nejma, dans le récit de Kateb Yassine, n'a jamais la parole. Le récit est donc pris dans une forme de tension. C'est bien sûr la tension de la violence coloniale, mais c'est aussi la tension de la dispersion, du rassemblement. C'est la question de la perte aussi, c'est la question des retrouvailles. Et c'est finalement ce qui vient dynamiser le récit. Ce qu'on peut ressentir en disant Nejma, c'est une grande complexité dans le déploiement du récit, dans l'identification des narrateurs, ou encore à travers la relation des scènes entre elles. On peut aussi être frappé, émerveillé ou effrayé par la langue, qui est une langue extrêmement poétique, tragique. Il y a quelque chose, on pourrait dire, qui se dégage d'elle, qui relève du mythe et qui vient brouiller notre rapport à la réalité de ce qui est décrit. Ces deux éléments, à la fois la complexité narrative et le rapport à la langue française, sont au fondement de la démarche littéraire de Kateb Yassine, traversée par des enjeux politiques extrêmement puissants. En effet, au regard des nombreux entretiens que l'écrivain a accordés à la presse et qu'on retrouve regroupés dans l'ouvrage précieux « Le poète comme un boxeur », il apparaît que ce que cherche à réaliser Kateb Yassine, c'est asseoir la légitimité du geste littéraire algérien. C'est affirmer l'existence et la grandeur d'une vision du monde autonome, propre au peuple algérien. C'est lutter, au sens fort du terme, pour bâtir un récit, le récit de la libération du peuple algérien, alors placé sous le joug colonial depuis 1832. Cette relation, cette tension est souvent exprimée par Kateb Yassine à travers la question de la poésie et de la révolution. Pour cela, Kateb Yassine engage un récit dans le but, selon ses propres mots, de montrer à la France, à la nation littéraire par excellence, qu'il était, lui, l'indigène, le colonisé, capable d'écrire une histoire aussi complexe, aussi élaborée, aussi réfléchie que celle qui parsème l'ensemble littéraire français. La question du rapport à la langue est pour sa part aussi prise dans une tension similaire. En effet, Kateb Yassine maîtrise la langue amazighte, la langue arabe, mais c'est en français qu'il écrit Nejma dans le but, selon ses propres mots, d'expliquer aux Français, en français, que l'Algérie n'est pas française. Ces quelques éléments que je suggère ici très rapidement montrent à quel point le littéraire et le colonial sont liés. En 1956, le récit paraît, et je vous propose d'écouter la manière dont Kateb Yassine perçoit et comprend cette publication. Quand le livre a paru, il a été bien reçu par la critique, mais je me rendais compte que c'était un succès empoisonné, un faux succès, et comme la guerre se prolongeait, ma situation devenait de plus en plus difficile ici. Il y a eu une perquisition de la DST dans ma chambre. Ça commençait à sentir le roussi. Et comme un éditeur italien avait acheté les droits de Nejma, je suis allée en Italie. Et là, il y a encore une chose à dire. Comment et par qui les écrivains sont soutenus quand ils n'ont pas d'autre existence que celle d'écrivain ? J'aime beaucoup ce passage et plus globalement les entretiens que Kateb Yassine a pu accorder à la presse, puisque s'y révèle véritablement à la fois ses qualités d'écrivain, de poète, plus tard ses qualités de dramaturge, mais aussi ses qualités quasi analytiques de sa propre situation. Il est aussi l'écrivain qui va dire ce qu'est la vie d'écrivain, ce qu'est la condition d'écrivain, a fortiori, dans un contexte comme celui de la période coloniale. Ces éléments qu'on pourrait qualifier d'éléments politiques ou d'éléments plus critiques font que Nejma est un récit intellectuellement important pour moi, mais intimement, je pourrais dire qu'il l'est aussi tout autant. C'est un récit que j'ai découvert à l'adolescence. À l'époque, je n'en lisais que des fragments qui me touchaient parce que je trouvais la poésie, les métaphores déployées d'une extraordinaire beauté. Puis c'est un livre qui m'a poursuivi aussi lorsque je me suis mise moi-même à écrire mon premier roman, Zone cinglée, en 2009. C'est un roman qui est demeuré présent aussi dans l'écriture de mon second roman, L'ampleur du saccage, qui a paru en 2011 aux éditions Actes Sud. Puis j'ai intégré ce récit au corpus d'études de ma thèse de sociologie qui portait sur la manière dont le champ littéraire français a légitimé ou non les écrivains placés en situation coloniale. C'est donc un livre que j'ai lu, puis que j'ai cessé de lire pour ne plus que le feuilleter finalement, le parcourir, en saisir quelques expressions qui restent des expressions fortes et émouvantes. J'en ai plusieurs exemplaires qui traînent un peu partout chez moi, au bureau, chez mes parents. Voilà, ça fait partie des choses qui sont ici et là. Et j'espère que c'est un livre que vous lirez. J'espère que c'est un livre que vous allez relire ou vous allez simplement refeuilleter si vous le connaissez déjà. En tout cas, c'est un livre, il me semble, qui dit quelque chose d'une époque, qui dit quelque chose d'un homme, mais qui dit aussi quelque chose des lecteurs et des lectrices qui, à un moment donné, ont rencontré son chemin.
Vous venez d'écouter Kaoutar Archi à son micro et elle vous recommande Nejma de Kateb Yassine, disponible chez Point. Kaoutar Archi est sociologue de la littérature française et écrivaine. Elle est l'autrice du roman À l'origine de notre père obscur, paru chez Actes Sud, et de l'essai Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne, chez Pauvert. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club, avec l'aide de Maëlle Diallo. Elle a fait le montage de cet épisode et Tristan Mazir a réalisé le mixage. Je vous recommande les épisodes de Travail en cours, notre nouveau podcast qui interroge les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.